Chapitre 38. Vue du ciel, c'était l'hécatombe. Vers le sud, on ne différenciait plus la Seine des flaques brunes qui avaient envahi les champs. Lacs, étangs, rivières s'épousaient en un titanesque miroir d'eau sale qui luisait sous les nuages couleur gris de lin jusqu'à l'horizon. Avec l'altitude, nombre de constructions se résumaient à des pyramides de tuiles posées comme des barques sur les flots et les voitures à des confettis rouges, bleus, jaunes, parsemés sur des flaques d'alluvion. Lucie, Franck et Géco observaient avec effroi cet avant-goût de fin du monde. Un casque anti-bruit sur les oreilles. Une crue, c'était le résultat d'une nature en colère, d'une force implacable qui tirait au cœur même de la civilisation les sonnettes d'alarme. Le monstre sortait de ses gonds et détruisait, noyait, avalait, en réponse à l'inconséquence de l'homme. Une incursion vive, brutale, un hold-up dans le quotidien et l'intimité des gens, plus concrète que la fonte de la calotte glaciaire. Un deuxième hélicoptère suivait, alourdi de 3 hommes de la brigade d'intervention et du pilote. L'intuition de Robillard avait fait mouche. Ils avaient eu confirmation que depuis la veille, à 21h40, certains quartiers de la ville de Dordive vivaient sans électricité. C'était donc la panne de courant qui avait provoqué la coupure de la caméra et non l'intervention de l'ange du futur. Le système introduisant l'eau dans les cylindres avait aussi dû s'interrompre. Autrement dit, ce déferlement sauvage d'eau avait peut-être enrayé le plan de Chevalier, à savoir offrir un spectacle de mort à des millions de personnes, et l'avait empêché de délivrer les centaines ou milliers de pages de son manifeste. Charcot se préparait à affronter l'un des épisodes les plus rudes de sa carrière. Il aurait tout donné pour que les hélicoptères volent plus vite. Installé à l'arrière, il serrait la petite main blanche de sa femme. Lucie avait insisté pour l'accompagner. Ce coup-ci, elle refusait que son mari endure seul la violence de la scène une fois sur place. Partager l'horreur revenait peut-être à diminuer sa propre souffrance de moitié. C'était aussi trouver l'autre pour en parler dans les moments difficiles et évacuer ce qui pouvait encore l'être. Les écureuils de la police nationale effectuèrent un virage serré vers la droite lorsque se dessinèrent les premières habitations de Dordive. Le loin, si timide d'ordinaire, crachait sa colère, tapissant d'un film d'aluminium les rues de cette ville de 3000 habitants. Même si l'onde de crue n'était pas encore à son apogée, l'eau atteignait le milieu des tibias aux endroits les plus exposés, et elle montait d'heure en heure avec une paresse indécente. 20 centimètres d'eau restaient gérables, mais suffisaient pour immerger jusqu'au plafond toutes les pièces situées sous ce qu'on appelait le niveau zéro. Comme les caves. Les hélicoptères se posèrent sur le seul endroit praticable, sans être trop éloignés de leur destination, un terrain de football attenant à une salle de sport. 2 policiers municipaux les attendaient, les bras chargés de salopettes kaki imperméables. Ils étaient accompagnés d'un médecin et d'infirmiers avec des brancards. Ces hommes furent informés de la raison exacte de la présence de la brigade criminelle. Géco leur demanda de ne pas poser de questions et de les mener sur le champ à l'adresse indiquée. Ils enfilèrent leur tenue en vitesse, à l'exception des gars de la BRI qui préféraient mouiller leurs pantalons et devaient garder toute leur liberté de mouvement, et se mirent en route. La propriété de Grégoire Priester se situait à 600 mètres à vol d'oiseau. Durant le trajet, personne ne parla, concentré sur ses pas, fendant l'onde afin de ne pas se tordre la cheville parce qu'on ne voyait pas même ses pieds. Jamais Franck n'avait entendu un silence aussi lourd dans une ville. Les rues étaient prisonnières des flots. Plus loin, ils croisèrent des pompiers qui tiraient une barque avec un vieil homme à bord et son fauteuil roulant plié à ses pieds. Une femme et sa fille marchaient, funambules, sur des planches de fortune, des bouteilles d'eau dans chaque main. Un habitant continuait à accumuler, avec l'énergie du désespoir, des sacs de sable sur le pas de sa porte, alors que l'eau l'encerclait et s'infiltrait partout. Sur la gauche, un cygne noir glissait en toute quiétude le long des façades. Lucie et Charcot échangèrent un regard lourd de sens. Pourquoi là, maintenant? Ils avaient croisé cette symbolique de mort par le passé, et cela n'avait engendré que des drames. Après 20 minutes d'un trajet épuisant jusqu'à la limite de la commune, ils se regroupèrent devant le portail en partie immergé d'une propriété isolée. Il était fermé, mais pas verrouillé. À une 20aine de mètres, la bâtisse semblait flotter comme un bateau en papier au milieu d'un étang. Franck ressentit un étrange soulagement. Des escaliers, dont seules les premières marches étaient submergées, montaient vers la porte d'entrée restée au sec. Le rez-de-chaussée de la demeure avait été construit sur un soubassement d'une 60aine de centimètres au-dessus du sol. La maison avait donc, semblait-il, échappé aux inondations. Tous les volets étaient fermés. Pas de véhicule sous le carport. Les flics parisiens dégagèrent leurs armes de leur holster et demandèrent aux policiers locaux de rester sur place. Ils progressèrent les uns derrière les autres, se retrouvèrent vite au sec devant la porte d'entrée fermée à clé et en profitèrent pour se débarrasser de leur combinaison. L'officier de la BRI vint à bout de la serrure en quelques coups de bélier portatif. 5 secondes plus tard, ils étaient à l'intérieur. Ici, comme dehors, le silence, l'absence de vie. Lointaine odeur de pierre calcaire, de poutres vernies et de cire d'abeille. Franck n'était plus qu'un brûlot d'énergie brute. Il puisait dans l'offensive ses dernières forces. Alors que les hommes sécurisaient les pièces, il fonça vers le hall, talonné par Lucie et Gecko. De toute sa vie, jamais il n'avait reculé. Et cette fois encore, il fallait qu'il soit le premier. Sur l'une des portes, on distinguait une clé fichée dans la serrure. Une grande gifle d'air frais le fouetta lors de l'ouverture. Une 10aine de marches plongeait dans l'obscurité. Il se tourna vers ses collègues. « C'est là-dessous qu'ils sont. » Gecko, en retrait, ne disait rien. Il n'était plus qu'un flic dans l'urgence, au même rang que ses subordonnés. Charcot transforma son téléphone en torche et s'avança sur les marches en béton. Chaque centimètre vers le fond le rapprochait d'une vérité qu'au plus profond de lui, il se refusait à affronter. Dehors, des milliers de personnes sinistrées souffraient. Mais si cette fichue crue avait pu sauver au moins Bertrand, l'arracher à sa mort programmée, alors peut-être que cette catastrophe avait une raison d'être, et qu'il existait un subtil équilibre dans ce monde devenu dingue où chaque malheur se voyait compensé à moindre échelle par son contraire. L'arme braquée au-dessus de son téléphone, il foula le sol sec de la cave. La pièce était coupée en deux par le rideau qu'on voyait sur les écrans. Des morceaux de ficelle maintenaient tendus le rectangle de toile noire. L'absence de bruit les inquiétait. Ils n'entendaient rien d'autre que le roulement de leur propre respiration. Un survivant n'aurait-il pas réagi au claquement de leurs pas? Les gestes dans l'eau des cylindres, les respirations, n'auraient-ils pas été perceptibles? 20 heures dans le froid, debout, sans manger, l'eau au ras du cou. Personne ne pouvait survivre à une telle épreuve. Charcot ne perdit pas une seconde. Il fallait en finir. Il posa sa main sur le rideau et tira d'un coup sec. Il eut un mouvement de recul. Lucie hoqueta, juste derrière. Gecko n'émit aucun son. Face à eux, collé contre la face interne du cylindre, un masque de terreur. Bertrand les fixait, recroquevillé en position fœtale. Ses pieds touchaient le fond du bout des orteils. Ses cheveux ondoyaient au-dessus de sa tête, tels d'agiles tentacules d'anémone. Il avait le front plaqué contre la paroi translucide, les yeux grands ouverts, avec les paupières qui commençaient à se décoller des orbites. Une bulle d'air était restée prisonnière au bord de sa narine droite, telle une perle de nacre. Sa gorge noire, visible au-delà de sa langue, semblait retenir un dernier cri. Lui avait coulé, mais ses vêtements flottaient à la surface comme pour le narguer. Il s'était déshabillé. Charcot était ravagé. Mais il resta debout, stable sur ses jambes, lui qui avait déjà affronté tant de ténèbres. Il sentit la main de Lucie dans son dos, une douce poussée qui l'encourageait à avancer, à découvrir l'autre cadavre, parce que c'était son travail, et que si lui ne le faisait pas, qui le ferait à sa place? Alors, il se décala vers la droite pour affronter le deuxième cylindre, éclaira le fond de la pièce. Il vit d'abord la potence, la corde, puis une silhouette longiligne, droite, immobile, dans la prison cylindrique. Nue, elle aussi. Elle tournait sur elle-même. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Charcot ne comprenait pas cette position. Il n'était pas sûr de bien voir. Il s'approcha. Le cou de Florence était piégé dans son pantalon de caoué, noué aux extrémités et gonflé d'air. Le vêtement faisait office de gilet de sauvetage en maintenant la tête hors de l'eau. La jeune femme, inerte, avait les paupières baissées, la bouche rectiligne et close, comme celle des poupées de cire. Charcot sentit l'adrénaline lui donner un coup de fouet.
« Elle est peut-être encore vivante, Lucie. Le médecin, vite !»
Lucie courut dans les escaliers, tandis qu'il se ruait dans la partie située de l'autre côté du rideau. Il revint avec l'escabeau aperçu en entrant, le positionna et s'élança sur les marches. Il voulait y croire. Il voulait qu'elle vive. Avec des gestes vifs, il arracha le tuyau et dévissa le large couvercle à l'aide de ses deux mains.
« Je vais la sortir de là. Évitez-moi de tomber. »
Penché, soutenu aux chevilles par Géco, dans une contorsion douloureuse, il tira le corps vers lui, le souleva par-dessous les bras et le hissa.
« Allez, Florence, allez !»
Ils parvinrent à la descendre. Charcot ôta son blouson, l'étala au sol et posa Florence dessus. Le souffle court, il s'agenouilla, caressa le visage pâle, repoussa les cheveux trempés vers l'arrière, le corps dégagé, cette froideur des blés qu'on fauche au petit matin dans la rosée. La peau luisait comme celle des jeunes morts. Les lèvres saisissaient déjà les couleurs d'une aube violette. Charcot observa la poitrine, y plaqua son oreille. Ses yeux s'embuèrent lorsqu'il perçut les signes de la vie.
« Le corps bat, elle respire !»